Nous sommes votre radio de proximité, votre radio communautaire francophone qui compte plus d'une quinzaine de bénévoles et une dizaine d'employés. Nous sommes Acadie.
2020 a été une année comme nulle autre. La COVID-19 a bien entendu fait couler beaucoup d'encre, mais au Nouveau-Brunswick, il faut aussi noter les élections parmi tant d'autres sujets. Question de faire un retour sur 2020, je joins Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance et député de Fredericton-Hanwell. Bonjour, M. Cardy.
Hey, bonjour.
Donc, la COVID-19 a évidemment retenu l'attention cette année. En tant que ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance, vous occupez un poste quand même assez important et vous avez été à plusieurs reprises au cœur de l'action. Donc, comment avez-vous vécu cette année en compagnie de la COVID-19?
C'était une année, encore exactement comme tu as dit, que c'était quelque chose d'extraordinaire, difficile absolument, mais à la même temps, j'ai eu la chance dans les points dans mon carrière de travailler dans des endroits assez difficiles, dans les contextes de guerre, de conflits civils, etc. Alors, malgré le fait que c'était une autre sorte de bataille contre le virus, c'était quelque chose que je n'étais pas complètement non habitué à adresser. Alors, j'étais heureux, j'étais vraiment chanceux d'avoir le soutien d'une équipe absolument extraordinaire pour travailler autour de moi dans autour du cabinet et aussi dans le ministère. Alors, c'est difficile, je suis assez fatigué à ce point, mais encore une route à traverser avant que la pandémie est complètement derrière de nous. Mais je suis tellement heureux que cette semaine d'avoir le briefing dans la chambre du cabinet sur le vaccin et le premier Nouveau-Brunswick qui va recevoir le vaccin la semaine prochaine. Pour moi, ça c'est incroyable. C'est le meilleur cadeau de Noël que je peux recevoir.
Très certainement. J'ai lu dans un journal, vous évoquiez aussi, il y a quelques instants, que vous avez un peu d'expérience avec les conflits, les situations un petit peu difficiles. Je lisais dans un journal, il y a plusieurs mois, que vous vous intéressiez très jeune aux pandémies. Est-ce que cet intérêt vous a aidé dans la gestion de la crise?
J'espère que ça m'a aidé, ça m'a donné un contexte pour regarder pas seulement les actions qui étaient prises en avant que Nouveau-Brunswick était impacté par le COVID et pour aussi, j'espère, aider dans le développement des plans assez proactifs pour combattre le virus. Et tout que j'ai lu depuis le temps que j'étais jeune sur la gestion de crise, si c'est les crises civiles, militaires ou les maladies, la chose qui est vraiment importante est d'avoir un plan. Et un plan réaliste, limité, flexible, absolument, mais un plan. Et c'est pour ça qu'en février, j'ai écrit un plan qui était au cœur de la réponse du gouvernement pour battre contre la pandémie pour les premiers 5-6 mois. Et j'espère que ça a bien réussi, ça a aidé à notre réussite comme une province, mais enfin, tu ne peux pas avoir un plan si tu n'as pas les gens qui sont convaincus que c'est une bonne idée. Et l'endroit où on était vraiment chanceux au Nouveau-Brunswick, c'était que les Nouveau-Brunswickois étaient prêts pour prendre les mesures en main eux-mêmes pour les protéger, pour protéger leur famille, leur communauté contre le virus avec toutes les mesures d'utiliser des masques, de distanciation sociale, etc. Alors, oui, je pense que mon expérience m'a aidé, mais enfin, qu'est-ce qui a vraiment aidé le Nouveau-Brunswick, c'était le courage et la fortitude des Nouveau-Brunswickois et Nouveau-Brunswickoises.
Vous avez dû faire certains plans, notamment pour le retour à l'école cette année, avec la COVID-19. Dans la création de ce plan-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à imaginer?
Mais le problème avec un virus que ça peut disparaître une journée et réapparaître la prochaine, est qu'on connaissait que c'était clair qu'avant le développement d'un vaccin, que le COVID va être avec nous. Et pour le plan pour le déconfinement des systèmes scolaires, pour recommencer l'année scolaire en septembre, c'était la balance entre les mesures de santé pour assurer la protection des jeunes et aussi l'équipe professionnelle dans les écoles et aussi l'importance du système d'éducation, d'assurer que les étudiants dans la province reçoivent une éducation de haute qualité malgré l'impact du COVID. Alors, cette balance était assez difficile de maintenir. Je pense qu'on a réussi en quelques instances les difficultés dans les autres, mais en grand, ça, c'était le plus grande difficulté parce que c'était pas une question de dire « OK, on a un niveau... on peut prévoir des éclosions peut-être dans 5, 10, 15% des écoles, etc. » On ne connaissait pas d'un jour à l'autre si on va avoir une éclosion, zéro, une centaine. Et le système avait besoin d'être capable de réagir rapidement dans toutes les différentes situations. Alors, jusqu'à ce moment, je suis vraiment heureux avec la manière que le système a soutenu les premiers trois mois de cette année. Et on a eu les explosions dans les cas dans beaucoup d'écoles, mais en grand, les enseignants, les aides-enseignants, les concierges, les conducteurs d'autobus, toute l'équipe professionnelle, les parents aussi et les étudiants eux-mêmes ont adapté les mesures de santé publique qui a renforcé les mesures de santé publique pour toute la province, qui a réussi de pousser en dehors encore le virus des écoles. Et le nombre minime d'infections qu'on voit ici dans la province, je pense que le système d'éducation peut prendre une pourcentage du crédit pour ça, pas moi-même, mais tout le monde qui travaille dans le système en première ligne du système dans les écoles. C'était un travail extraordinaire dans un temps de grande pression, de stress, de peur même. Et je suis tellement fier de travailler avec une équipe comme ça.
Je repense que vous m'avez dit que l'important, c'est d'avoir un plan, puis ensuite, on va voir si on va devoir s'adapter. Dans le cas des écoles, vous me parliez de plusieurs scénarios différents. Je suppose que votre approche au début, ça a été de dire pour X scénario, on a tel plan. Pour X scénario, on a tel autre plan, etc. Puis on verra ce qu'on va devoir faire ensuite. C'est un peu ça l'approche que vous aviez quand vous regardiez il y a quelques mois la rentrée scolaire?
Oui, absolument. Moi et mon équipe au ministère, on travaillait avec l'équipe du premier ministre et les autres ministères pour le développement du plan pour le déconfinement de la province. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? D'avoir les phases basées sur les couleurs assez fameuses maintenant, jaune, orange, rouge, etc. Et c'était pour ça qu'en septembre, on avait les mesures en place dans les écoles qui étaient clairement assez difficiles des fois, avec l'éducation hybride au secondaire, les boules de salle de classe pour les salles de classe pour les maternelles à 8. C'était difficile et des fois, j'ai entendu les commentaires des parents, des étudiants, même les enseignants dire on n'a eu aucun cas pour les semaines maintenant, pourquoi est-ce qu'on a ces mesures? Mais maintenant, les dernières semaines, quand on voit que le virus arrive sur nos portes avec les énormes éclosions aux États-Unis, à Québec et ailleurs dans le Canada, que maintenant on peut voir pourquoi on a mis ces mesures en place. Le fait qu'on a réussi de continuer l'éducation pour tous les jeunes dans la province face à face avec certaines exceptions minimes, une journée perdue ici, une autre là, mais en grand, le système a continué d'opérer de manière sécuritaire, sanitaire et avec l'éducation au cœur. Et ça, c'est encore ça, c'est une la raison pour ça est le professionnalisme, l'éducation de l'équipe professionnelle, de tout ce qu'ils ont fait pendant même les éclosions dans les écoles. Et c'était assez incroyable, mais jusqu'à ce point, ça a bien réussi.
Je reviens encore une fois en août et en septembre. Le Nouveau-Brunswick a été la première province au pays à organiser une élection provinciale pendant la COVID-19. Ça a été stressant de votre côté? Vous avez trouvé ça inquiétant? Est-ce qu'il a été difficile de faire la gestion de la crise en même temps que finalement mener une campagne électorale?
Oui, c'était difficile. C'est pour ça que j'ai contribué à l'affaire en novembre de l'élection pour essayer d'éviter une élection, de voir si c'était possible d'avoir une des mesures qui était incluse dans le papier que j'ai écrit en février, d'avoir un comité qui inclut tous les différents partis politiques dans l'Assemblée. La suggestion était de dire, OK, on peut continuer et épanouir ce comité pour avoir un contrat, pas vraiment une coalition, mais un contrat pour dire on ne va pas avoir une élection avant la fin de la pandémie. Quand c'était clair que ce n'était pas possible, mon parti a géré la campagne de la manière, je trouve, responsable. On a évité de faire le porte-à-porte, les autres outils traditionnels de campagne qui peut-être exposer la population, les militants et les candidats-candidates au risque d'éviter tout ça. Et ça a bien réussi, enfin. Mais oui, c'était inquiétant. Et je suis heureux que la campagne est en meilleur lieu maintenant. Et maintenant, mon gouvernement, on a 4 ans pour démontrer qu'on peut pas, ne sont pas seulement capables de gérer une pandémie, mais aussi la période après la pandémie, qui va être une période assez difficile pour la province et pour le monde en grand.
Justement, parlons-en de cet accord que votre parti a proposé aux autres partis. Si vous aviez été dans l'opposition et que vous n'aviez pas été au gouvernement, est-ce que vous auriez accepté un tel accord où, dans le fond, vous donniez une presque garantie pour les prochains mois, voire les prochaines années, que ce parti-là allait rester au pouvoir?
Oui, mais je pense que de mon côté, je pense que c'était une offre raisonnable. Et deux des trois partis à l'opposition ont dit aussi qu'ils pensaient que c'était raisonnable. C'était seulement un parti qui n'a pas été encore. C'est absolument leur choix dans une démocratie. Mais c'était envie d'assurer que, de mon côté, j'étais vraiment inquiété de qu'est-ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'était clair que, comme c'est traditionnel avec les virus qui sont encore plus forts pendant l'automne et l'hiver et le printemps que pendant l'été. Et si on entre dans un automne ou un hiver difficile avec le virus et on a une crise politique à la même temps, ça peut créer une montagne d'instabilité qui peut être vraiment dangereuse pour la population. Et je suis heureux qu'on ait évité ça et heureux que l'élection a passé avec aucun grand incident et tous les partis ont gérer leur campagne dans une manière sécuritaire, je pense. Et maintenant, on a eu un résultat assez clair. Et maintenant encore, c'est à moi et mes collègues de démontrer que nous sommes prêts pour écouter pas seulement les gens qui ont voté pour moi, pour les autres députés progressistes conservateurs, mais aussi les gens qui ont voté pour les libéraux, les verts. C'est important d'être un voix pour tous les gens raisonnables dans la province. J'espère que je peux être partie d'une équipe qui fait ça.
On parle beaucoup de vaccins dernièrement dans la gestion de la crise de la COVID-19, mais il a été question de vaccins plus tôt cette année. Vous étiez aux premières loges. Vous avez déposé un projet de loi pour rendre les vaccins obligatoires, certains vaccins pour les écoliers. Malheureusement, votre projet de loi a échoué. Pourquoi, selon vous, est-ce que ça n'a pas passé?
Premièrement, je veux préciser qu'on a déjà les vaccins mandatoires dans les écoles. C'était seulement pour enlever l'exemption pour les raisons religieuses ou philosophiques. Mais ça crée une grande controverse. Et quand j'ai mentionné une minute ou deux passées que quelque chose qui m'inquiète, c'est pas seulement la fin du pandémie et gérer ça, mais aussi qu'est-ce qui va arriver après ça. Et c'est clair que maintenant, nous sommes en train, partout dans le monde, pas seulement ici au Nouveau-Brunswick ou au Canada, de survivre une période d'instabilité créée par les mouvements populistes, les pays qui essaient d'influencer nos affaires, les groupes assez les anarchistes avec une grande arme, mais les gens qui n'ont pas vraiment intérêt de soutenir ou créer les nouvelles institutions, mais aiment attaquer les institutions actuelles. Et on a vu ça avec le débat sur les vaccins. Et on avait les groupes contre les vaccins, les États-Unis, des autres pays qui ont organisé pour essayer d'influencer les députés. Et je veux dire franchement que j'étais surpris du fait qu'ils ont réussi avec les gens dans tous les partis. Mais ça souligne pour moi l'importance de continuer la bataille pour l'éducation, en particulier l'éducation sur la pensée critique. Comment est-ce qu'on peut former les jeunes pour éviter les erreurs en analyse qu'on a vues avec quelques députés pendant le débat sur le vaccin.
Donc pour vous, la défaite de ce projet de loi-là, elle vient de l'étranger, là?
C'est absolument clair. Les groupes anti-vax sont basés la plupart dans les États-Unis. Il y a beaucoup des groupes. On n'a pas eu beaucoup de discussions les dernières années sur l'influence russe sur la politique américaine. Le premier but des organisations d'influence russe était de pousser pour M. Trump. Le deuxième but était de pousser l'agenda anti-vax. Ça, c'est pas mon opinion, ça, c'est l'opinion des organisations de sécurité canadiennes, américaines, tous nos alliés, c'est clair. Alors, parce qu'on partage en grand dans la province avec la majorité anglophone, la même langue, les Américains, ça aide le partage de la malinformation américaine qui est là en énorme montant de malinformation qui est créée aux États-Unis ou les autres pays. C'était copié et utilisé dans le débat ici en Nouveau-Brunswick. Alors, c'est triste, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de le prendre en sérieux. Nous ne sommes pas isolés du monde. Et on a besoin de nous préparer pour défendre nos valeurs, nos institutions, notre moyen de vie contre les influences négatives des gens des autres pays qui veulent nous influencer dans une manière négative.
vous parlez d'isolement. Cette année, il y a été question plusieurs fois d'isolement de certaines parties du Nouveau-Brunswick. Par exemple, pour reprendre la question de la fermeture des hôpitaux la nuit que finalement n'a pas abouti, on parlait des régions rurales qui étaient trop lourdement affectées, de certaines régions francophones qui auraient été trop lourdement visées par ce genre de projet de loi. Également, aucun député conservateur dans le nord du Nouveau-Brunswick. Comment est-ce que vous allez faire en 2021 pour essayer de ramener tout le monde ensemble, les régions rurales, les francophones, qui semblent être, je ne veux pas dire à l'écart en ce moment, mais pas exactement au centre des choses au Nouveau-Brunswick?
D'écouter tout le monde. Et j'espère d'écouter les gens des populations qui pensent qu'ils ne sont pas inclus dans les conversations autour de table du cabinet, d'assurer que je suis là comme une voix des gens qui peut-être ne pensent pas qu'ils ont une voix, pas nécessairement seulement côté linguistique et culturel, mais aussi on a une grande population de gens qui sont pauvres dans la province, qui sont beaucoup de fois exclus des débats politiques. La tâche pour moi et mes collègues est de travailler dans cette direction et aussi de développer un plan pour comment est-ce qu'on peut pousser en avant l'économie de la province, la société de la province, développer un projet de société dans le Nouveau-Brunswick. Quelque chose qu'on a manqué depuis longtemps. Et on a, avec la communauté francophone et acadienne, un montant de fierté extraordinaire autour du projet de société acadien qui était là depuis des décennies maintenant, encadré par Louis Robichaud, continué après ça avec tous les autres gouvernements. Maintenant, je pense qu'on a besoin encore d'un projet de société pour le Nouveau-Brunswick en grand. Et les anglophones ont besoin de prendre l'inspiration des réussites des francophones, des projets comme le PALC au côté francophone, quelque chose absolument extraordinaire. Je pense que ça, c'est une conversation qu'on a besoin de. On ne peut pas hésiter de l'avoir. Même si c'est difficile, ça peut être positif. Et si on peut avoir cette conversation inspirée par l'esprit d'action qu'on a vu cette année avec la réponse de la province contre le virus, qui nous a mis en position assez extraordinaire. Le Nouveau-Brunswick, c'est la juridiction en deuxième position en monde. On voit nos réponses au COVID-19, les résultats de notre bataille contre le virus. Alors, si on peut prendre l'inspiration de manière que les Nouveau-Brunswickois rurales, urbaines, francophones, anglophones, nouvelles, arrivants, on est tous unis pour pousser contre le virus, on peut utiliser cette même énergie, ce même esprit et pousser la province dans une direction beaucoup plus positive. Mais avant de faire ça, c'est facile de juste gérer, OK, ça va être un exercice en cheerleading. On ne va pas faire ça. On a besoin d'avoir des conversations profondes sur où sont les raisons pour les divisions qu'on voit dans la province, comment est-ce qu'on peut les adresser, et comment est-ce qu'on peut inclure aussi les gens qui ont peut-être encore exclu les débats à l'ancienne, les communautés autochtones, les nouveaux arrivants, les gens avec des communautés supprimées en conditions socio-économiques. Alors, beaucoup de travail à faire, et je pense de mon côté que la première chose qu'on a besoin de faire est admettre absolument qu'on a ces défis et on a besoin d'avoir un plan pour les adresser.
On a parlé beaucoup de deux aspects qui vous ont marqué cette année. Premièrement, la COVID-19, puis aussi vous êtes ministre de l'Éducation. On a parlé beaucoup d'éducation. On va laisser ces deux thèmes-là de côté pour l'instant. Vous êtes aussi député de Fredericton Hanwell. Donc, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans la région de la capitale cette année?
C'est vrai, mais encore, c'était un peu lié au COVID, parce que je pense que c'était la chose que... C'est une chose qui a occupé le temps et l'énergie mentale de presque toute la population, presque toutes les journées. Alors, énorme montant de conversations sur la question de COVID. Et à part de ça, il y a toujours, même avec la pandémie, le jour quotidien, ça continue. Alors, il y avait le problème avec les routes, les problèmes avec les taxes, etc. Les problèmes comme ça, beaucoup. Les mêmes problèmes que d'habitude. Je suis chanceux avec une circonscription qui a une population qui est vraiment autosuffisante dans beaucoup de cas. Et beaucoup de fois, je reçois les courriels sur les questions provinciales plutôt que pour la circonscription en direct. Ici, en Fredericton, pour les choses plus spécifiques, l'appui pour un nouveau centre pour les arts, questions sur l'accès aux services de l'avortement avec la clinique 554 et aussi une nouvelle piscine pour la région de Capitale. Ça, c'est probablement les trois politiques spécifiquement liées au Capitale.
D'accord. Qu'en est-il de la clinique 554?
Pardon?
Qu'est-ce qui va arriver avec la clinique 554? Quelle est votre intention de ce côté-là?
Je ne sais pas ce qui va arriver avec la clinique, mais pour moi, c'est l'accès aux services. Et j'étais vraiment heureux comme quelqu'un qui était absolument 100% en faveur du droit pour accès à l'avortement, service d'avortement pour toutes les femmes dans la province. J'étais heureux de la position que le premier ministre a prise pendant la campagne de dire que, regarde, on a besoin de laisser cette décision aux régies. Et s'il y a un problème d'accès, c'est aux régies de l'adresser. Et j'espère que s'il y a un problème d'accès, que le réseau Horizon va adresser ça rapidement. Et parce que c'est ça que j'entends absolument des gens dans ma circonscription et aussi dans les autres coins de la province aussi, parce que ça, c'est clairement aussi, ce n'est pas seulement une question pour Fredericton, c'est pour les gens dans le sud et l'ouest de la province qui n'ont pas accès à un hôpital qui offre un service comme ça, et aussi pour la province en grand, parce que c'est aussi une question de droit des femmes et accès aux services de santé qui devrait être, à mon avis, livré avec aucune controverse. Je sais que la controverse continue, mais j'espère qu'on peut mettre ça en arrière de nous et tourner vers les questions plus difficiles. Comment est-ce qu'on peut attirer les médecins, les infirmières, assurer le sustainability du système de santé en grand, parce que on a encore le problème d'avoir un grand nombre d'hôpitaux avec pas assez de gens travailler là-dedans. Alors, ça, c'est le problème à moyen et long terme qu'on a besoin de regarder aujourd'hui, parce que sinon, on va arriver dans une crise dans quelques années. Comme mon collègue ministre Holder dit toujours, on va avoir un manque de 130 000 employés professionnels dans les prochains 10 ans. C'est un problème. Mais avec le COVID, on a vu une transformation encore. On voit que les gens arrivent dans la province. Les maisons qui vendent dans deux, trois jours. Et ça, c'est positif. Mais si on veut vraiment créer une province attirante, on a besoin d'avoir, encore par exemple, des services d'avortement, parce que ça, c'est quelque chose de normal pour une province développée dans un pays développé.
D'accord. Puis en terminant, à quoi devons-nous nous intéresser en 2021? Que doit-on espérer pour 2021?
Espérer, premièrement, fin de la pandémie. Ça, c'est j'espère que ça va donner encore un niveau de confiance dans les experts, dans les médecins. Ils ont fait un travail incroyable les derniers mois. À la même temps que la pandémie est en train de créer, d'endommager les soutenabilités des institutions des pays partout dans le monde, de détruire les économies, on a eu les gens dans les universités, les scientifiques qui ont créé pas seulement un vaccin, mais maintenant il y a quelques douzaines de vaccins qui sont en ligne maintenant. Et c'est quelque chose qui, comme d'habitude, va prendre les années et les années, était complété dans moins d'un an. Alors, juste le fait qu'on a réussi à faire ça, on a besoin, de mon avis, en 2021, de célébrer cette réussite. Mais aussi de dire, regarde, c'est assez fragile, notre civilisation. Et on a vu, en 2020, la fragilité. On a vu qu'avec quelques mois de pression, même si ce n'était pas une guerre, seulement une guerre contre un virus, que nos institutions, des fois, étaient un peu faibles. On a vu les gens qui questionnent les faits scientifiques, qui ont essayé de partager, de créer les conspirations. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment dangereux, mais la manière plus efficace, de mon avis, d'entrer en bataille contre les grands dangers et d'entrer dans un esprit d'optimisme et de confiance. Et on a beaucoup de raisons pour être confiants ici dans notre province, pour les raisons qu'on a déjà discutées autour de notre réponse au virus. Et aux côtés du gouvernement provincial, on a besoin de créer le plan pour pas seulement pour les quelques mois après la fin de la pandémie, mais aussi pour le futur de notre province pour les prochaines décennies. C'est un nouveau monde avec la Chine qui devient un pouvoir mondial, les Américains qui sont en train d'avoir une période de difficulté pour être polis. Les alliances et la structure de l'économie mondiale ont changé énormément dans les dernières quelques années et c'est un processus de changement accéléré pendant la période de pandémie. On a besoin de regarder la soutenabilité de nos systèmes social qu'on a créé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est un moment de transformation et je pense qu'on a démontré cette année que Nouveau-Brunswick est prêt pour être en avant de cette transformation et être un modèle pour comment que les populations de différents histoires, les autochtones, francophones, anglophones, nouveaux arrivants, peuvent travailler ensemble et dans notre petit coin de l'Amérique du Nord, on peut être un petit bijou pour le reste du monde.
C'est parfait. Bien, merci beaucoup, M. Cardy, d'avoir bien voulu faire ce bilan de l'année 2020.
Et merci beaucoup pour votre chance et bonne année et joyeuses fêtes.